en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Nous ne pouvons plus parler de la laïcité en France aujourd'hui sans en référer à ce qui se dit et se décide au niveau des instances européennes. Le colloque organisé en septembre 2005 par l'Académie des sciences morales et politiques traitait de la laïcité française dans son contexte international et s'interrogeait sur la spécificité ou le rôle de modèle que tient la France. Et justement, l'Europe est bien la première échelle internationale à laquelle la laïcité française doit se confronter. Paris peut-il mener, par exemple, son interprétation de la laïcité si Bruxelles ne le suit pas? Pour bien connaître les enjeux de ce dialogue entre conception française et européenne de la laïcité, voici trois interventions sur le sujet. D'abord, nous vous proposons d'étudier comment l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme a suivi une ligne laïque plus ou moins proche de la conception française. C'est le thème que va développer Alain Garey. Alain Garey est avocat au barreau de Paris, il est spécialisé en droit des religions et plaide régulièrement devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Le 1er juillet dernier, je me trouvais à Washington et je me suis livré à une recherche à la National Library du Congrès américain sur le moteur de recherche de la société Google, et j'ai tapé « laïcité et Europe ». Et sont surgis de la recherche effectuée près de 271 000 pages comme résultat, et poussant l'investigation, si tant est qu'on puisse parler d'investigation à ce niveau-là, j'ai ensuite fait une recherche sur « laïcité et Cour européenne des droits de l'homme », et comme résultat, 18 400 pages sont apparues en langue française. La tâche était colossale. Fort désabusé, je croisais un fonctionnaire de la librairie du Congrès américain et évoquais les recherches que j'accomplissais sur le sujet. Et celle-ci, d'un air très stupéfait, me répondit « Mais do you have religious freedom in France ? Disposez-vous, avez-vous, connaissez-vous la liberté de religion en France ?» C'est-à-dire que la question, comme le soulevait Blanich chez les Nippons, gêne aux entournures et que l'exposé que je voudrais vous faire va dépasser ces réalités franco-françaises. Pourquoi ? À travers cette question de la laïcité présentée telle un principe de la Convention européenne des droits de l'homme, vous allez voir qu'on va dépasser les cadres nationaux dont nous sommes friands les uns et les autres en raison de la détention de passeports qui font de nous des Français, certes, mais au sein de l'Union européenne. S'agissant de la Convention européenne des droits de l'homme, qui fait sens aujourd'hui auprès de 46 États membres du Conseil de l'Europe, le dernier Monaco, l'Azerbaïdjan, la Russie, les grandes démocraties, s'agissant de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article dit religieux, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, est absolument muet s'agissant de laïcité. Cet article présente uniquement un certain nombre de droits, de droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Tout d'abord, je rappelle, de pensée, de conscience et finalement de religion. Mais également à la liberté de changer de religion ou de conviction et à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions. Nulle part dans le texte de la Convention européenne ne figure la notion de laïcité. Mais, et dans le cadre d'une très très relative discrétion au plan international, l'affirmation du principe de laïcité comme valeur de la Convention européenne des droits de l'homme a cependant été posée tout récemment dans une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rendue dans l'affaire de la dissolution du Parti de la prospérité en Turquie, Refa Partisi, par un arrêt de la troisième section et un arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne du 13 février 2003. S'agissant de l'examen fait par la Cour des conditions de dissolution de ce parti politique qui présentait également un discours religieux, la Cour européenne va, dans un premier temps, rappeler sa jurisprudence antérieure sur le sujet de la protection de la liberté de religion, et affirmer, et je cite, c'est un grand moment, c'est de l'anthologie juridique, je cite, « En appliquant ces principes, les principes de liberté de religion dans le cas de la Turquie, virgule, les organes de la Convention européenne des droits de l'homme ont estimé que la laïcité était assurément l'un des principes fondateurs de l'État qui cadre avec la prééminence du droit et le respect des droits de l'homme et de la démocratie. Donc, abstraction faite des cadres nationaux, la laïcité est devenue, pour la Cour européenne des droits de l'homme, une valeur de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Cour précise une attitude d'un État en particulier, une attitude ne respectant pas le principe de laïcité ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion et ne bénéficiera pas de la protection qu'assure l'article 9 de la Convention. On a l'impression que la Cour subordonne l'exercice pratique de la liberté de religion ou de ne pas avoir de religion au respect du principe de laïcité. La Cour va donc admettre la position des autorités turques dans cette affaire qui avait prononcé la dissolution du parti de la prospérité dont le dirigeant Necmettin Erbakan deviendra en 1996 Premier ministre. Ce n'est pas un parti politique qui se réunit dans une cabine téléphonique, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'époque. Et la Cour va considérer que la dissolution de ce parti de la prospérité, parti politique dont certains dirigeants prononçaient publiquement des discours politiques à contenu religieux à tonalité théocratique, que cette dissolution s'inscrivait dans la défense de la démocratie. La Cour européenne signale, et dans un arrêt extrêmement développé, une quarantaine de pages, en 2003, la Cour rappelle que ce parti, au sein de la démocratie turque, ce parti voulait instaurer un véritable système multijuridique avec la promotion du statut personnel musulman, que ce parti voulait également mettre en œuvre la charia à la communauté nationale et recourir à la guerre sainte, au djihad, pour assurer la domination totale de la religion musulmane sur la société turque en particulier. La mesure de dissolution pour la Cour européenne sera justifiée dès lors que les chances que ce parti avait de réaliser son projet politique étaient réelles à l'époque en Turquie et que partant il constituait un danger tangible et immédiat pour l'ordre public. J'ouvre rapidement une parenthèse. Il est clair que pour autant à travers cet arrêt qui confirme la mesure de dissolution de ce parti par les autorités turques, il est clair que pour autant la Cour européenne ne délivre pas un label de respectabilité ou d'honorabilité à la République turque, que cela soit dit. Bien évidemment, elle se prononce uniquement sur la dissolution. Elle ne dit pas que la Turquie respecte la laïcité telle que nous concevons, par exemple en France, alors qu'on vient d'examiner cette situation, une laïcité avec une séparation qui n'en est pas une, on peut en revenir d'une certaine façon. C'est dire que, au-delà aujourd'hui des contextes nationaux, des cadres juridiques et légaux constitutionnels nationaux, au-delà de la polysémie, de la polémique sur la notion même historiquement de laïcité, ce principe de laïcité, sous l'action insistante aujourd'hui de la Cour européenne des droits de l'homme, ce principe a acquis un statut contentieux de valeur européenne, protectrice d'une part de l'état de droit, ce sera le thème de ma première partie, plan-plan comme à Sciences Po, et une situation contentieuse, seconde partie, qui est rendue possible, en fait, en raison de la dimension identitaire de cette laïcité. Qu'en est-il de la laïcité du point de vue de son statut contentieux tel qu'élaboré par la Cour européenne des droits de l'homme? Cette valeur contentieuse que confère la Cour à ce principe de laïcité, abstraction faite des cadres légaux nationaux, ce statut a une valeur protectrice de l'état de droit et de défense de la démocratie. Cette laïcité va être saisie, happée par le juge européen, conscient de l'enjeu qui se joue en Turquie autour des revendications de ce parti pour lequel les autorités prononcent la dissolution. Et d'emblée, le gouvernement turc, se justifiant devant la Cour européenne, gouvernement mis en cause par Refa Partisi et ses dirigeants, le gouvernement turc fait in abstracto référence au principe de laïcité, de la façon suivante. Le principe de laïcité est une condition préliminaire d'une démocratie pluraliste et libérale. Un État qui adhère au principe de laïcité est une communauté politique qui refuse d'organiser la société selon les principes religieux. Le gouvernement fait également valoir que certaines conditions rendent le principe de laïcité particulièrement important pour la Turquie par rapport aux autres démocraties. Il convient de noter que la République de Turquie est fondée sur un processus révolutionnaire qui a transformé un État théocratique en un État laïque et que les tendances réactionnaires islamiques, et non pas islamistes, islamiques, constituent un danger encore actuel à nos jours. Paragraphe 58 de l'arrêt. Et donc, prenant acte de l'invocation par le gouvernement au principe de laïcité, et du fait que, d'ailleurs, les deux parties à l'instance, et le parti de la prospérité et le gouvernement turc devant la Cour européenne invoquent le principe de laïcité, la Cour européenne tranche la question de l'invocation au principe de laïcité. Et la Cour précise cependant dans son arrêt que si les partis sont d'accord pour invoquer le principe de laïcité, l'Europe, comme disait l'autre, laïcité, la Cour observe que, pour autant, les partis ne s'accordent pas sur le contenu, l'interprétation, l'application du principe de laïcité. Ça vous rappelle peut-être quelque chose dans le débat public français sur la laïcité. Chacun ayant sa définition, selon son orientation, ses échelles de valeurs, surtout en France. De sorte qu'en absence d'accord sur le contenu de ce principe de laïcité, le procureur général de la République turque va poursuivre Refa Partisi, va prononcer, et la dissolution va être ensuite prononcée. L'invocation de ce principe prend un tour contentieux, et au terme de son examen juridictionnel, la Cour européenne, dans son arrêt définitif de 2003, va considérer que la sanction infligée au parti peut raisonnablement être considérée comme répondant à un besoin social impérieux, dans la mesure où les responsables du Refa Partisi, sous prétexte qu'ils donnaient un contenu différent au principe de laïcité, avaient déclaré avoir l'intention d'établir un système multijuridique et d'instaurer la loi islamique, la fameuse charia. C'est donc à travers cette jurisprudence Refa Partisi de la Cour européenne, la laïcité rend de valeur constitutionnelle en termes de protection des droits et libertés et de protection de l'ordre public turc, et que finalement cette laïcité devient une valeur européenne de la société démocratique européenne en tant que premièrement paramètre d'émancipation de la tutelle religieuse sur l'État et sur la nation, et deuxièmement une laïcité qui présente le trait qui est un facteur de neutralisation des régimes théocratiques ou de l'intégrisme religieux. Pour autant, cette laïcité qui acquiert un statut contentieux doit être située dans une évolution très importante en Europe, une évolution culturelle de grande ampleur, qui est révélatrice de ce que certains sociologues ont décrit comme étant une laïcité culturelle. Une laïcité culturelle qui, en ce qui me concerne, appelle de mes voeux une certaine surveillance. Cette laïcité culturelle, identifiée comme une valeur identitaire pour l'Europe qui se construit, témoigne d'un fond commun démocratique aujourd'hui en Europe, et certains sociologues, dont Jean-Paul Willem et d'autres, indiquent que cette laïcité culturelle à vocation identitaire est devenue un bien commun. Et si, je le rappelle, si les modèles de relations entre les Églises et l'État, les cadres constitutionnels, les régimes légaux, les régimes administratifs restent distincts sur les plans nationaux, il est vrai que la garantie formelle des droits fondamentaux qui les rendent praticables fait l'objet en Europe d'une certaine convergence, et on décrit ainsi certaines caractéristiques de cette laïcité culturelle: neutralité confessionnelle de l'État, quel que soit le régime des cultes, neutralité de la puissance publique, reconnaissance de la liberté religieuse, reconnaissance de l'autonomie de la conscience individuelle, réflexivité critique. D'autres instances comme ou d'autres points de référence comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme dégagent d'autres caractéristiques. La première, garantie de la liberté de conscience, de la libre expression religieuse, y compris dans l'espace public, égalité entre non-croyants et croyants, égalité entre les cultes, neutralité de l'État au regard du financement des cultes. C'est-à-dire que finalement, s'agissant aussi de cette laïcité culturelle, celle-ci est extrêmement variable du point de vue de sa définition, et que selon sa perspective, on peut y ranger tel ou tel critère. C'est donc que je pense que cette notion de laïcité culturelle présente un écueil important, l'écueil récurrent de la polysémie et de la polymorphie même de la notion de laïcité en tant que telle, et qu'on accueille aujourd'hui des caractéristiques selon ses options et ses recherches qui ne se recoupent pas et se complètent selon ses grilles de lecture qui sont extrêmement variables. C'est la raison pour laquelle il me semble important de placer cette notion revendiquée, invoquée de laïcité culturelle sous une certaine surveillance, et notamment sur la surveillance contentieuse qui s'imposera si tant est qu'on invoque cette laïcité pour mieux peut-être écarter le respect de certains droits fondamentaux. C'est le cas, par exemple, lorsque la Commission consultative nationale des droits de l'homme n'hésite pas à affirmer, en référence à cette laïcité culturelle, que finalement les atteintes à la liberté de conscience et de culte sont rarissimes dans l'Union européenne et les discriminations religieuses exceptionnelles. C'est un constat qui n'est absolument pas, en tout cas, objectivé par la Commission, et cela on peut le regretter, étant entendu que, selon d'autres perspectives, d'autres sons de cloche peuvent résulter de la situation, de l'examen de la situation. Et puis, s'agissant de cette laïcité culturelle, ou cette invocation à ce principe, Nietzsche et Nippon soulevaient tout de même l'examen extrêmement critique d'instances internationales sur le sujet, OSCE, Nations Unies, mais surtout la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais il faudrait faire un retour sur l'affaire Union des athées contre France, qui, dans un rapport rendu en 1994 par la Commission européenne des droits de l'homme, avait pointé du doigt la violation par la France de la Convention européenne des droits de l'homme dans le cadre de l'adoption d'un système administratif et associatif qui posait quelques discriminations pour ceux qui considéraient que Dieu était un mythe. Vous voyez, les affaires vont tout de même très très loin. C'est donc que ce principe de laïcité culturelle soumis à la judiciarisation de ses caractéristiques subit lui aussi évidemment des critiques qui lui sont adressées, notamment par les juridictions lorsqu'elles tranchent des enjeux. En conclusion, car le temps presse, je voudrais dire que l'européanisation de la laïcité, qui ne sent pas que le vin et le fromage français, surgit en ce début du XXIe siècle, là où on ne l'attendait pas. Elle vole au secours des menaces qui pèsent sur la démocratie. Cette laïcité devient européenne et traduit, de ce point de vue-là, une reformulation constante en se métamorphosant, sous l'œil médusé peut-être de certains commentateurs de la jurisprudence. Et il est vrai que la laïcité n'a jamais été autant convoquée que lorsque les questions identitaires se posent dans une société démocratique en construction. Je pense à ce qui est survenu en France en 1946 avec la constitution de la 4e République, qui pose le principe constitutionnel de laïcité, mais également en 2001-2003 au sein du Conseil de l'Europe. La laïcité, de ce point de vue, tourne le dos à tous ces débats historiques sur la définition de la laïcité et sa construction. Cette laïcité, en tout cas telle qu'appréhendée par la Cour européenne des droits de l'homme, est futuriste, à mon sens. Elle est à l'avant-garde des débats sur la construction européenne, ce qui est d'une certaine façon le signe de sa modernité symbolique et mythique. Et sa consécration européenne et jurisprudentielle, inattendue il est vrai, est révélatrice de cette modernité, pour certains, de son efficacité. Alors est-ce que la question se pose de savoir si l'européanisation de la laïcité appelle une nouvelle gestion juridique des religions en Europe. La question se pose, qu'est-ce que la laïcité européenne telle que sous-tendue par la jurisprudence de la Cour européenne? Le droit européen de la laïcité, entre guillemets, par essence évolutif, restant irrigué par de très nombreuses sources et confronté à de très nombreux défis aujourd'hui. L'internationalisation et l'appel, en tout cas, à la résolution judiciaire des tensions suscitées par l'invocation à ce principe de laïcité, notamment devant la Cour européenne, doit être examiné de très très près, ce que ne font pas beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui. Est-elle une chance pour la modernité démocratique? Je crois que plus que jamais, il faut en tout cas prendre la mesure de ce dialogue entre les juges constitutionnels et les juges européens, pour prendre la mesure de la vitalité de ce principe de laïcité qui est apparu tel un sésame en 2003 sur les bords de l'île à Strasbourg. La question est ouverte.
L'intervention de maître Alain Garey, avocat au barreau de Paris et plaideur régulier devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il évoquait la jurisprudence de la Cour par rapport au cas de liberté religieuse. La Cour a été amenée à ériger en valeur le principe de laïcité, ce qui a donc désormais une valeur contentieuse protectrice. Toujours sur la laïcité à l'européenne, voici l'intervention de David Capitan, professeur à l'université Paris-Sorbonne. Il est directeur du Centre de droit allemand et puis aussi secrétaire général de la Société de législation comparée fondée en 1869 et qui publie la très fameuse Revue internationale de droit comparé. Son intervention porte sur la laïcité française face aux libertés européennes. C'est-à-dire, la liberté religieuse telle qu'elle est défendue par la Cour européenne des droits de l'homme est-elle compatible avec la loi française? Comment la loi sur le voile, par exemple, en France, a-t-elle été reçue par les instances juridiques européennes? Voici donc l'intervention du juriste David Capitan.
Je suis heureux de pouvoir prendre ici la parole au nom des juristes, puisqu'aussi bien le thème que nous traitons ce matin est celui de laïcité et construction européenne. Les moyens financiers de l'Union européenne sont, comme on le sait, extrêmement limités, de sorte que l'action juridique est un de ses principaux moyens d'intervention. Cela dit, à l'issue de mon propos, je crois que je devrais adopter une position modeste pour un juriste qui est de reconnaître que les instruments du juriste sont très dépendants des conditions économiques et sociales dans lesquelles il se développe, de sorte que, on le verra, l'examen strict des normes n'amène pas toujours au résultat, finalement, que la pratique nous place sous les yeux. L'Europe se veut garante des libertés. L'exercice des libertés marque ses origines les plus anciennes. Quel acte plus libre, en effet, que celui de la jeune princesse de Tyr qui, quittant ses compagnes sur la plage de Sidon, s'approche du taureau immaculé et passe autour de son cou le collier de fleurs qui est la marque de son élection et le début aussi de son enlèvement. C'est bien là que les origines de l'Europe se trouvent. Alors ce thème si païen, dans l'expression Covid lui a donné, sera par la suite repris par la meilleure doctrine catholique, la jeune princesse Europe sera l'image ou la figure de l'Église, tandis que le taureau immaculé, qui était l'incarnation de Zeus, eh bien sera l'incarnation d'une divinité plus moderne. Cette garantie, cette volonté de défendre les libertés sera bien entendu exprimé tout au long de l'histoire européenne dans ses différentes facettes, l'humanisme de la Renaissance, qui peut-être en est une des expressions les plus remarquables, eh bien, se fonde notamment sur cette notion de dignité de l'homme que Pic de la Mirandole a merveilleusement décrite et qui est à l'origine, la charte des droits fondamentaux, en tout cas le formule de cette manière au niveau communautaire, qui est à l'origine des droits fondamentaux et des différentes libertés. Après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, cette idée d'une Europe garante des libertés accompagnera sa construction dans les formes que nous connaissons aujourd'hui, en communion d'ailleurs, je crois que le terme n'est pas impropre, avec l'ensemble des États du monde, puisque la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 apparaîtra à peu près en même temps, quelques années après la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On a cité d'ailleurs dans cette enceinte tout à l'heure quelques-uns des Français qui ont participé à ce travail de rédaction des libertés, René Cassin pour la Déclaration universelle et Pierre-Henri Tégène pour la Convention européenne des droits de l'homme. Au plan communautaire, c'est-à-dire de l'Union européenne, la protection des libertés est apparue plus récemment. On a rappelé tout à l'heure que c'est en 2000, n'est-ce pas, que la Charte européenne des droits fondamentaux a été rédigée. Pour autant, si l'on avait pensé au moment de la rédaction des traités communautaires se limiter au caractère ou aux questions techniques de l'établissement du marché commun dans différents domaines, si on avait laissé de côté cette question plus politique qui est celle de la protection des droits fondamentaux, eh bien la Cour de justice des communautés européennes avait progressivement créé tout un corpus de droits fondamentaux, de libertés, qui sera formalisé, qui sera rédigé, qui sera systématisé dans le cadre de cette charte de l'année 2000, elle-même intégrée, qui aurait dû être intégrée, et qui sera peut-être intégrée dans un futur traité établissant une constitution pour l'Europe, dont elle constituait tout de même un des principaux éléments qui permettait de qualifier ce nouveau traité de constitution. Une Europe donc garante des libertés, quelle est la place que peut occuper la laïcité française face à ces libertés européennes ? Une question qui, dès le départ, est ambiguë en raison de l'ambiguïté même du terme de laïcité. Vous rappelez, Monsieur le Président, que la question de la définition de ce terme n'est jamais complètement épuisée. De fait, la laïcité est pour certains libérale, quel cas elle n'a pas de raison d'entrer en contradiction avec les libertés européennes. La laïcité est simplement le moyen de faire coexister l'expression des différentes religions. Pour d'autres, et peut-être cette vision qui a présidé à la rédaction, du moins pour ceux qui l'ont portée d'abord, de la loi de 1905, eh bien, la laïcité avait-elle pour objet, au contraire, d'écarter l'expression religieuse, de la nier, en tout cas de la limiter le plus possible. Deux positions, donc, à partir de la notion de laïcité, qui peuvent, au regard de la notion de liberté, eh bien, conduire ou bien à une bonne cohérence, ou au contraire, à des oppositions. Et de fait, on l'a rappelé, je vais simplement rapidement évoquer cette question, on a rappelé tout à fait récemment la tension qui avait pu exister entre les autorités françaises et les enceintes communautaires qui participaient à la rédaction de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lorsque est arrivée la question du préambule. Comme on l'a rappelé, effectivement, on avait pensé faire une référence dans ces articles qui sont finalement très peu normatifs que l'on trouve au début de ces textes, une référence au patrimoine culturel, humaniste et religieux, c'est l'Allemagne notamment qui avait été à l'origine de cette formule, et il faut noter tout de même que la France, en période de cohabitation, eh bien, comme un seul homme, président de la République et Premier ministre, eh bien, s'est opposé à cette formulation pour finalement imposer celle qui a été retenue, qui est la référence au patrimoine spirituel et moral, le terme de religieux disparaissant au moins dans la version française, si ce n'est dans la version allemande. Opposition possible, donc, entre les libertés protégées au plan européen et la laïcité, principe extrêmement français. Que devait donc devenir cette opposition? Comment devait-elle être finalement conclue? Eh bien, c'est sur le terrain de la jurisprudence que cette opposition allait pouvoir s'exprimer. C'est le juriste qui va essayer, de la manière la plus brève possible, mais peut-être aussi claire, de vous exposer les détours. Les mécanismes, tout d'abord, permettent à la jurisprudence de s'exprimer dans cette affaire sont relativement simples. Ce sont d'une part les juridictions françaises qui sont chargées d'appliquer les conventions internationales que la France a signées. Conservons-en une pour la clarté du propos et aussi sa brièveté, la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme protège la liberté religieuse. Nos juridictions doivent appliquer ces conventions internationales, quitte à laisser inappliquer un texte de loi qui porterait atteinte à ses libertés, quitte à annuler une décision administrative, qu'elle soit réglementaire ou individuelle, qui irait également en sens contraire, le règlement d'un établissement scolaire qui interdirait le port du voile islamique, ou encore la décision qui conduirait à exclure un élève d'un tel établissement. Dans cette optique, eh bien, les conflits sont nombreux, de sorte que les juges français ont eu de nombreuses occasions de se prononcer sur cette compatibilité entre notre principe de laïcité et la liberté religieuse telle qu'elle est garantie au plan européen. La question du voile islamique que j'évoquais à l'instant est évidemment tout à fait typique de cette situation, mais elle a connu également quelques autres conséquences. On pense notamment au refus qui avait été opposé à un ecclésiastique catholique qui portait un vêtement traditionnel de rejoindre l'aumônerie dont il était en charge au sein d'un établissement public, dont la presse s'était fait l'écho. Premier mécanisme, donc, le juge français doit appliquer les libertés européennes. Deuxième mécanisme, s'il ne les applique pas, eh bien, à ce moment-là, des cours européennes peuvent intervenir pour condamner la France. Ce sera, pour ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui est peut-être l'expression la plus aboutie de ces juridictions internationales. Ces jurisprudences nationales d'une part, européennes d'autre part, se sont effectivement beaucoup intéressées, parce que d'abord les requérants l'y ont intéressé, à ces questions, et on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. Peut-être d'abord, eh bien, constater qu'effectivement un certain antagonisme peut exister entre la laïcité, telle que les Français la comprennent, et la liberté religieuse, telle qu'elle est garantie au plan européen. Récemment, cependant, cet antagonisme, eh bien, semble s'être résolu au profit, peut-être, du point de vue français, puisqu'en effet, le principe de laïcité a été récemment intégré par la Cour européenne de Strasbourg dans certaines de ses décisions les plus récentes, notamment à propos d'affaires turques qui peuvent, plus ou moins, être rapprochées de la situation française, et ce qui fait peut-être que l'on peut, dans un troisième temps, remettre légèrement en cause ce rapprochement qui n'est peut-être que de façade, dans la mesure où peut-être la situation française n'est pas exactement la situation turque en matière d'expression individuelle des croyances religieuses et de mise en œuvre de pratiques liées à ces croyances. Antagonisme de principe, d'abord. En effet, la liberté religieuse n'est pas inconnue du droit français, même garantie au plus haut niveau constitutionnel des textes juridiques français, elle est également protégée au plan européen. Cependant, et c'est là que l'antagonisme peut-être peut apparaître, eh bien, seul le droit français protège, au même niveau que la liberté religieuse, le principe de laïcité. Celui-ci étant au contraire inconnu, a priori, du moins dans les textes écrits, du droit européen. Ce droit européen, quel est-il? Eh bien, je l'ai dit, c'est d'abord la Convention européenne des droits de l'homme qui en est le premier support. Et dans cette convention, la liberté religieuse fait l'objet de l'article 9 de cette convention, dont peut-être on peut rapidement donner lecture, puisque c'est autour de cela que tout s'articule. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Donc une déclinaison, des déclinaisons nombreuses de ce principe de liberté religieuse qui sont contenues dans ce texte. Alors, on pourrait faire sans doute l'inventaire de tous les textes internationaux qui garantissent cette liberté. En réalité, tous reprennent peu ou prou les mêmes termes. Ceci découle d'ailleurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été reprise en 1950 par cette convention, et qui a été reprise pratiquement mot pour mot par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de l'an 2000. Il y a donc une grande stabilité, n'est-ce pas, dans la formulation de ce texte. Une liberté religieuse qui est donc très, très largement envisagée, puisqu'elle n'est pas seulement la liberté de croire dans son fort intérieur, mais également, si je veux retenir peut-être le point le plus central, la liberté d'exprimer cette religion. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Kokkinakis, qui est une affaire grecque qu'on a eu l'occasion de citer tout à l'heure, eh bien, qui est une des premières décisions de principe, la Cour européenne des droits de l'homme a même considéré que la liberté religieuse comportait le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un enseignement, sans quoi, dit-elle, la liberté de changer de religion ou de conviction, qui est garantie expressément par l'article 9 que j'ai lu tout à l'heure, demeurerait lettre morte. La liberté d'expression de la religion, non pas seulement une expression qui serait l'émanation d'un comportement purement personnel, mais une expression qui est véritablement dirigée vers le voisin, fait partie de la liberté de religion. Alors peut-on rapprocher ces textes européens des textes français ? Sans aucun doute. Au plan national, eh bien, c'est l'article 10, notamment, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est l'expression de cette liberté. La forme en est beaucoup plus concise, mais l'idée, sans doute, est à peu près similaire à celle qu'on trouve dans l'article 9 de la Convention. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Cette manifestation ne doit pas troubler l'ordre public, mais dans la mesure où elle ne le trouble pas, eh bien, elle doit être également admise, et donc également la liberté de religion, avec sa composante de manifestation de la religion, qui est garantie également au plan national. Une certaine similitude donc des libertés qui sont garanties, mais en revanche, une particularité de droit français par rapport au droit communautaire ou au droit européen, le droit français limite la liberté religieuse, car dans le même temps qu'il la garantit au plan constitutionnel, eh bien, d'autres articles constitutionnels protègent le principe de laïcité, une laïcité qui peut être conçue comme ayant pour objet de limiter dans la sphère privée l'expression de la liberté religieuse, alors que la sphère publique, dans une certaine mesure du moins, doit en être protégée. Le droit européen, eh bien, une conception beaucoup plus protectrice de la liberté religieuse. Certes, le droit européen conçoit également que la vie en commun suppose une limitation de cette liberté. Comme toutes les libertés, la liberté religieuse peut être limitée. Mais, et c'est cela qui est le cœur de la protection du droit, toute limitation doit être justifiée et toute limitation doit être proportionnée à l'objet qu'elle poursuit. Ce qui suppose donc, lorsqu'on met en place une limitation de l'expression de la liberté de religieuse, comme de n'importe quelle autre liberté, on doit d'abord prouver quel est l'objectif d'intérêt général que l'on poursuit, la protection d'autrui, la protection de la santé publique, on peut imaginer des objectifs d'intérêt général variés. Encore faut-il aussi que la limitation soit la plus restreinte possible au regard de l'objet qu'elle poursuit et au regard également, puisque les deux doivent être mis en balance, de la liberté qu'elle limite. La Cour européenne a eu l'occasion à plusieurs reprises de considérer qu'était justifié des limitations de la liberté religieuse. On peut citer quelques cas qui illustrent peut-être le propos. Ainsi, dans une affaire suisse de 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'administration suisse avait pu tout à fait légitimement interdire à une enseignante d'une école, d'un jardin d'enfants, qui s'était convertie à l'islam, de porter un foulard islamique, car en effet, disait-elle, il s'agit là d'un signe fort. Les enfants sont influençables, et si l'on veut protéger leur liberté religieuse, eh bien, il faut éviter que la personne qui les a en charge pendant la journée n'exerce, par le biais du port de ce morceau d'étoffe, eh bien, une expression religieuse trop forte, étant donné la fragilité, n'est-ce pas, du public. De la même manière, dans une affaire de 2000, qui concernait la France cette fois, eh bien, la Cour a considéré que la France avait pu légitimement encadrer administrativement l'abattage rituel des animaux pour des raisons de santé publique. Là encore, on peut entrer dans les détails de l'affaire. Il s'agissait d'une affaire qui concernait une association juive orthodoxe qui considérait que l'abattage tel que le consistoire central français l'a en charge ne correspondait pas exactement aux prescriptions religieuses que même souhaitait appliquer. Un monopole est établi en France. On a considéré que ce monopole était justifié par un objectif de santé publique et que la limitation de la liberté des orthodoxes qui en résultait était justifiée. De la même manière, enfin, l'administration anglaise a pu légitimement imposer aux sikhs de porter un casque de mobylette lorsqu'ils se trouvent sur un cyclomoteur, même si l'on pourrait penser d'ailleurs que le vêtement traditionnel pour eux les protégerait sans doute aussi bien qu'un casque homologué par l'administration des chocs qu'ils pourraient rencontrer. Mais enfin, on a considéré que là encore, la liberté, l'objectif de santé publique permettait de leur imposer de porter un tel casque, qui évidemment est incompatible avec le port de la coiffure traditionnelle. Donc, au plan européen, possibilité de limiter, à condition de vérifier à chaque fois la proportionnalité de la limitation. En France, au contraire, le principe de laïcité a pu conduire à des solutions qui ne permettent pas une telle appréciation in concreto du caractère proportionné de la limitation. Alors le meilleur exemple, si je veux là encore en retenir un typique parmi d'autres, c'est l'adoption de la loi du 15 mars 2004, qui est cette loi votée l'an dernier, qui interdit de manière générale le port de tout signe religieux au sein des établissements scolaires. On ne va plus, dans un tel cas, vérifier au cas par cas que le public auquel on a affaire, que les circonstances dans lesquelles le signe religieux est porté par tel ou tel est effectivement de nature à justifier une limitation de la liberté. On interdit de manière générale et absolue, quelles que soient les circonstances et dans tous les établissements scolaires, le port d'un signe religieux qui est pourtant une manifestation de la liberté religieuse. Une solution donc qui est justifiée par la protection du principe de laïcité en France, c'est ainsi du moins que le législateur l'a voulu, qui est en contradiction. Il sera intéressant d'ailleurs de voir de quelle manière la Cour européenne des droits de l'homme jugera cette loi française au regard de la liberté qu'elle garantit. Pour l'instant, elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer. Il n'est pas absolument certain que la loi française soit conforme à la liberté religieuse telle qu'elle est garantie au plan européen. Donc une opposition, au moins de principe, qui se manifeste, n'est-ce pas, dans des situations tout à fait concrètes. Malgré cela, un certain rapprochement peut être mis en évidence dans les derniers temps de l'évolution de ces jurisprudences, à la fois européennes et nationales. Ces rapprochements se marquent d'abord du côté de la jurisprudence européenne. La Cour de justice des communautés européennes, ou plus exactement d'ailleurs, et je ne veux pas confondre les deux cours, non pas la Cour de Luxembourg, mais la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, a eu l'occasion, dans deux affaires récentes, de faire une place au principe de laïcité, qui est pourtant un principe français, qui ne se trouve pas dans les textes européens. Deux affaires turques, qui sont l'affaire du Refa Partisi, on appelle la première. La première, donc, concernait l'interdiction à laquelle avait procédé le gouvernement turc d'un parti islamique qui prenait, notamment, l'affaire est longue et la décision très argumentée, qui se prononçait en faveur de l'application de la charia dans le cadre d'un régime de loi personnelle au sein de l'État turc. Ce parti a été interdit sur le fondement de la législation turque qui est relative aux partis politiques, et bien entendu, les personnes appartenant à ce parti se sont pourvues devant la Cour de Strasbourg en considérant qu'il y avait là une atteinte à leur liberté. Les libertés qui étaient invoquées étaient évidemment nombreuses, la liberté d'expression politique, la liberté d'association qui concerne les partis politiques, mais également la liberté religieuse. La Cour européenne des droits de l'homme, dans cette décision de 2003, qui est récente encore, a considéré finalement que cette interdiction était justifiée, au regard d'ailleurs des différentes libertés qui étaient invoquées par les requérants, en s'appuyant justement sur le principe de laïcité. Et elle a considéré que l'interdiction avait pour objet de protéger la laïcité et que cet objectif était en soi suffisant pour justifier la limitation de la liberté religieuse. Ce qui est intéressant, car on ne se livre plus ici à une appréciation in concreto en disant la liberté religieuse de l'un est limitée pour protéger la liberté religieuse de l'autre ou un autre type de liberté. Ici, on se contente de dire le principe de laïcité en tant que tel est suffisant pour justifier une limitation de la liberté religieuse. Les considérants peut-être peuvent être cités rapidement, qui sont ceux de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle considère que la laïcité, qui consiste à confiner l'islam et les autres religions à la sphère de la pratique religieuse privée, et on a là, Monsieur le Président, une définition de la laïcité, qui on est toujours heureux de trouver, tant ce principe a de nombreuses compréhensions ou acceptions. Donc cette laïcité, qui a pour objet de confiner l'expression des religions à la sphère de la pratique religieuse privée, est en Turquie l'un des principes fondateurs de l'État, qui cadre avec la prééminence du droit et le respect des droits de l'homme et la démocratie. Par conséquent, une attitude qui ne respecte pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion. Voilà la manière dont la Cour européenne des droits de l'homme, s'appuyant sur le principe de laïcité, justifie une limitation de la liberté religieuse. Alors, deuxième affaire qui est de peu postérieure, qui est de 2004, et qui concerne là une affaire qui peut-être sera plus parlante et plus susceptible d'être transposée dans l'ordre juridique français, une affaire Leyla Sahin, qui concernait une étudiante turque qui souhaitait s'inscrire à la faculté de médecine, qui était voilée et à qui on a pu opposer le règlement de l'université qui interdisait aux étudiantes de se voiler dans dans l'enceinte universitaire. Alors, on lui a interdit de s'inscrire aux examens. Celle-ci, donc, après avoir épuisé les voies de recours au plan interne sans succès, est allée devant la Cour européenne de Strasbourg. Et là encore, la Cour européenne a considéré que la limitation de la liberté religieuse, qui existait certainement, puisqu'on lui interdisait de se voiler, ce qui était l'expression de sa liberté, cette limitation, là encore, était justifiée par la protection du principe de laïcité, la sauvegarde de ce principe pouvant être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie. Alors, je crois qu'on peut tirer de cette jurisprudence peut-être deux éléments synthétiques. L'un qui est que la laïcité en tant que principe est reprise par la Cour. L'autre, évidemment, c'est la référence permanente à la situation turque. Cette évolution de la jurisprudence européenne a été immédiatement reprise par la jurisprudence nationale. Et c'est intéressant de voir que la jurisprudence nationale est immédiatement transposée en droit français des solutions turques. Évidemment, elle était très heureuse de trouver la laïcité au plan européen parce qu'elle avait l'habitude de travailler avec. Est-ce que pour autant la Cour européenne des droits de l'homme considérera que cette transposition était possible? Il est pour l'instant difficile de le dire parce qu'elle n'a pas encore tranché. Le rapprochement est peut-être uniquement de façade. Je ne suis pas certain que la dernière jurisprudence française soit tout à fait conforme à la Cour européenne. Alors simplement, cette jurisprudence peut être illustrée de deux manières pour montrer qu'elle est assez large. C'est d'abord une jurisprudence du Conseil d'État. Le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer sur la conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et à la liberté religieuse de la loi de 2004 qui prohibe de manière générale le port du voile. Le Conseil constitutionnel n'a pas eu l'occasion de se prononcer, ce qui est d'ailleurs bien l'expression du caractère extrêmement marginal du contrôle qu'il opère sur le droit français. Personne n'a saisi le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité de cette loi, il ne s'est donc pas prononcé. En revanche, le Conseil d'État, lui, peut être saisi par n'importe quelle personne qui a un intérêt, et cela assure son intervention presque systématique dès qu'une question de ce type se pose. Il a été saisi, donc, pas rentrer dans le détail de l'artifice qui a permis de le saisir d'une loi, il n'est pas le juge de la loi, il était le juge de la directive qui permettait d'appliquer la loi, par le biais de laquelle il a contrôlé la loi. Et le Conseil d'État a dit, la loi de 2004 qui prohibe de manière générale et absolue le port des signes religieux dans une enceinte scolaire, alors même qu'on ne peut pas prouver sa proportionnalité, et alors même qu'il y attache une extrême importance depuis le début des années 90 sur cette question spécifique du voile, il abandonne complètement sa jurisprudence ancienne en disant le principe de laïcité justifie finalement cette interdiction générale et absolue, et il s'appuie, non pas expressément, mais évidemment, puisque cette question est postérieure à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, sur l'évolution européenne. Deuxième illustration de cette reprise en droit interne de l'évolution européenne, la solution du Conseil constitutionnel, cette fois, qui concernait la conformité à notre Constitution du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ce fameux traité sur lequel nous nous sommes prononcés négativement il y a quelques mois. Un certain nombre de parlementaires avaient saisi le Conseil constitutionnel en considérant que le fait qu'il contienne justement cette liberté religieuse, qui est celle dont je parle depuis tout à l'heure, cette liberté religieuse conçue d'une manière tellement large qu'elle ne faisait pas la place du principe de laïcité serait contraire par cela même au principe de laïcité qui est constitutionnel en droit français. Eh bien, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait là un argument qui ne pouvait être retenu, justement parce que, dit-il, et là il cite expressément la décision sur l'affaire du voile de cette jeune Turque, il le cite dans les visas de sa décision, eh bien, dit-il, la Cour européenne des droits de l'homme a intégré le principe de laïcité dans sa jurisprudence, de sorte que la liberté religieuse européenne, désormais, doit être interprétée en fonction de ce principe de laïcité, et il n'y a donc plus d'éventuelles contradictions avec le droit constitutionnel français. Alors, encore une fois, je crois qu'il faut être extrêmement prudent avec les décisions qui semblent marquer un rapprochement du droit français du droit européen, car en effet, le droit européen intègre la laïcité, mais uniquement dans le cadre turc. La France, n'est pas dans la même situation, parce que aucune des religions, ni l'islam qui est en Turquie, la religion principale, ni le catholicisme qui a pu l'être en d'autres temps chez nous, n'occupe cette position socialement importante. Et j'en arrive donc à la position modeste du juriste qui doit bien constater finalement que les outils qu'il utilise, les principes qui sont les siens et qu'il essaye de rendre cohérents, en réalité dépendent dans leur interprétation extrêmement des conditions économiques et sociales dans lesquelles elles sont utilisées. Alors, quelle conclusion peut-on apporter sur cet examen rapide des liens ou de l'articulation qui existe entre laïcité française et liberté européenne? Certes, les oppositions continuent d'exister, et pourtant, si l'on examine l'évolution de nos jurisprudences, on arrive à un résultat un petit peu étonnant, qui est que finalement, c'est la France qui protège le plus la laïcité. Et pourtant, la jurisprudence du Conseil d'État français, si on l'examine depuis des jurisprudences Abbé Olivier du début du XXe siècle, qui sont pratiquement contemporaines de la querelle religieuse à l'époque de son expression la plus brûlante, eh bien, ont protégé la liberté religieuse en appliquant le principe de proportionnalité de manière extrêmement précise. Le Conseil d'État, même dans les affaires les plus modernes de voile islamique, a continué cette jurisprudence en interdisant, en censurant régulièrement, jusqu'à 2004, des interdictions générales et absolues de port de signes religieux dans les établissements scolaires. Vérifier à chaque fois que l'interdiction était bien justifiée. C'est donc les juges français qui connaissent le principe de laïcité qui ont été les plus protecteurs de la liberté religieuse. Au contraire, la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne connaît pas le principe de laïcité, et qui donc devrait faire la part la plus large à la liberté religieuse, dans des affaires récentes, vient injecter le principe de laïcité et reconnaître qu'au sein même d'une université, ce qu'on n'admettrait jamais en France, le port d'un voile islamique peut être interdit. Il y a donc, et là encore, le juriste finalement était encore plus modeste, une remise en cause de ce que la simple lecture des textes permettrait de conclure. Alors, je crois que si on veut essayer de jeter un regard prospectif, mais avec beaucoup de prudence, là encore, eh bien, il faut se dire que puisque les phénomènes juridiques dépendent du cadre dans lequel ils sont appliqués, ce qui caractérise tout de même l'intégration européenne, c'est un rapprochement économique, sociologique extrêmement fort, et que probablement eh bien, ce rapprochement de nos sociétés va conduire en réalité à un rapprochement des concepts qui fait que, au-delà de leur opposition prima facie, eh bien, c'est en réalité vers un modèle européen qui permettra d'allier sans trop de difficultés liberté religieuse et nécessité de limiter cette liberté religieuse, peut-être par référence au principe de laïcité, qui permettra en réalité de résoudre les questions qui peuvent se poser. Je vous remercie.
David Capitan, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, son intervention portait sur l'intégration de la laïcité française dans le cadre de la défense plus générale des libertés religieuses en Europe. Dernière intervention sur la laïcité en Europe, lors de ce colloque qui était organisé par l'Académie des sciences morales et politiques à l'occasion du centenaire de la loi 1905, celle de Mgr Hippolyte Simon, évêque de Clermont. Il est aussi le vice-président de la COMES, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne. Et c'est bien à ce titre que Mgr Simon connaît bien la pratique quotidienne à Bruxelles du respect de la laïcité, mais aussi de l'écoute des instances religieuses, sachant que la représentation des églises auprès des institutions européennes reste un équilibre à trouver. En 1959, les différentes églises d'Europe ont créé la Conférence des églises européennes, qui regroupe aussi bien les catholiques que les orthodoxes, les anglicans et les protestants. Et l'église catholique a aussi fondé son propre organe de représentation. Depuis 1980, il s'agit de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, donc la COMES. Mgr Hippolyte Simon en est le vice-président. Nous l'écoutons.
Je vais essayer de vous présenter très, très simplement la représentation des églises. Alors, je parlerai au nom des églises chrétiennes auprès des institutions européennes, entendues comme les institutions de l'Union européenne. Je ne parlerai pas du CCE, du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, qui correspond à la géographie du Conseil de Strasbourg et qui a une petite représentation. Puis, vous savez aussi que le Saint-Siège est représenté par un observateur auprès du Parlement de Strasbourg. Mais avant d'aborder la question dans son aspect diplomatique, l'aspect de représentation, je rappellerai ce qui est sans doute une évidence, mais une évidence importante, que l'on risque d'oublier parce qu'elle est tout à fait implicite, c'est que la représentation des chrétiens auprès des institutions européennes est seconde par rapport à la présence des chrétiens dans les institutions de l'Union européenne. L'Union européenne n'a jamais eu, et on vient de nous le rappeler, et n'a pas de caractère confessionnel. Alors, peut-être qu'elle vérifie le paradoxe énoncé par Karl Marx en 1842 dans un article sur la censure où il citait saint Augustin et où il déclarait « C'est quand il est non confessionnel que l'État est chrétien ». Alors, ça pourrait inspirer une longue méditation. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est à Karl Marx. Bon. Donc, l'Union européenne n'a jamais eu et n'a pas de caractère confessionnel. Mais les églises chrétiennes sont représentées au sein des institutions européennes par les citoyens et les responsables politiques qui se reconnaissent chrétiens de conviction. Je crois que l'orateur précédent nous l'a bien montré. Cette présence invisible est sans doute la plus importante et la plus décisive. Et chacun sait que parmi les pères fondateurs de l'Union européenne, plusieurs et non des moindres, les trois que nous avons souvent entendu citer ce matin, étaient de conviction catholique, mais cette mention des plus célèbres ne doit pas occulter la présence de nombreux autres chrétiens de diverses confessions parmi les acteurs de la construction européenne. Plus profondément, et encore en deçà de la construction européenne, dans ses aspects institutionnels visibles, il convient de rappeler l'engagement, et encore une fois sans monopole, puisqu'il y avait aussi des sociaux-démocrates d'autres convictions, l'engagement de chrétiens dans les gestes, dans les orientations politiques et dans les choix éthiques et spirituels qui ont rendu possible l'émergence de l'idée européenne. Alors, sans remonter aux antécédents avant 1945, je crois pouvoir dire que si le traité de Rome est devenu possible en 1957, c'est qu'il a été précédé par des choix fondamentaux qui sont d'ordre spirituel, éthique et politique, effectués par une génération de citoyens européens revenus des camps de déportation, et ce choix, c'est de travailler à la réconciliation franco-allemande et à l'unification de l'Europe. Je rappellerai simplement pour mémoire, dans le temps que j'ai, je ne peux pas évoquer tout le monde, je rappelle simplement pour mémoire et à titre d'exemple, le texte fameux de Joseph Rovan dans Esprit en septembre 1945, « Nous aurons l'Allemagne de nos mérites ». Je ne peux pas développer, mais à travers cette référence, je tenais à rendre hommage à tous les citoyens européens qui ont voulu la réconciliation franco-allemande, sans laquelle il n'y aurait pas aujourd'hui d'Union européenne. Parce que, pour moi, c'est une conviction centrale, avant d'être un espace économique et un espace politique, l'Union européenne est un espace où le pardon mutuel et la volonté de réconciliation ont été pensables, au sortir des tragédies que nous savons. De la même façon, il faut rappeler que l'Union européenne ne serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui, après l'élargissement de 2004, sans l'initiative inouïe dans le contexte de l'époque des évêques polonais qui ont écrit en 1965, il y a donc 40 ans, une lettre aux évêques allemands pour leur proposer la démarche suivante « Nous pardonnons et nous demandons votre pardon ». Cette lettre, qui était une invitation à participer au millénaire de la Pologne en 1966, a déclenché la fureur des autorités polonaises de l'époque, une campagne de diffamation dont on n'a plus idée aujourd'hui, mais elle a enclenché un processus qui, pas tout seul, mais un processus qui a permis quelques années plus tard la reconnaissance de la frontière Oder-Neisse et le geste tout à fait étonnant de Willy Brandt à genoux devant le monument du ghetto de Varsovie. Donc j'ai bien conscience, en rappelant ça, d'être en deçà, et bien en deçà de la question précise qui m'a été posée, mais je crois que la représentation des églises auprès des institutions européennes est la partie visible d'un réseau, d'une inspiration tout à fait décisive. Alors, de façon plus visible, je crois qu'il faut aussi noter l'engagement de nombreuses associations, organisations non gouvernementales et associations d'obédience chrétienne qui essaient de promouvoir leur vision de la société, de la planète, auprès des institutions européennes. Là, il y a tout un travail de réflexion très très important, la présence dans la société civile, dans les ONG, d'associations d'inspiration chrétienne est tout à fait décisive. Alors, je n'ai pas cherché à établir l'inventaire, parce que je crois qu'il serait très très important, on le trouve sur Internet, et on peut le trouver en particulier dans la liste des ONG qui ont contribué au débat préparatoire à la rédaction du projet sur l'aide aux migrants, l'accueil, etc., de tout le dialogue interreligieux. Cette présence est très importante. Et on aurait tort de l'oublier, car elle est sans doute plus active dans la réalité des choses que la représentation proprement dite officielle des églises. Pour ce qui est de la représentation explicite des églises chrétiennes auprès des institutions, les choses sont relativement simples. Les églises qui font partie de la conférence des églises européennes, dont je salue le président, la personne du pasteur Jean-Arnold de Clermont. Ces églises, alors nombreuses, sont représentées par un bureau qui s'appelle Église et Société, qui est basé à Bruxelles et à Strasbourg. Alors je rappelle simplement, mais monsieur le pasteur pourra le développer, que la conférence des églises européennes a été fondée en 1959. Elle regroupe les églises européennes de tradition orthodoxe, protestante, anglicane et vieille catholique. Elle a été fondée donc dans le contexte de la guerre froide et elle s'est donnée pour but de travailler à battre les frontières qui divisaient le continent européen. Nous travaillons, alors je dis nous, parce qu'elle travaille avec l'Église catholique pour une réflexion en particulier sur la sauvegarde de la création. Je rappelle le rassemblement de Bâle en 1989, le rassemblement de Graz en 1996, sauf erreur de ma part. Et puis, nous sommes en train de préparer un rassemblement à Sibiu en 2007, dans le même esprit, l'esprit œcuménique, pour apporter une contribution à cette réflexion de la construction européenne. Du côté catholique, depuis le début, le Saint-Siège, a suivi avec beaucoup d'intérêt les débuts de la construction européenne, on nous l'a rappelé tout à l'heure. Le motif, je crois, est simple, c'est que l'objectif de la communauté européenne, maintenant de l'Union européenne, est la paix. Et l'Église encourage les efforts pour promouvoir la paix en Europe, mais pas simplement la paix en Europe comme moyen de travailler à la paix dans le monde. À partir des années 60, le Saint-Siège a confié une mission de représentation au nonce apostolique en Belgique. Et ce nonce apostolique en Belgique avait donc double mission, représenter le Saint-Siège auprès de l'État belge et suivre les questions européennes. En 1998, le Saint-Siège a ouvert une nonciature à part entière auprès des institutions européennes. C'est une particularité, c'est peut-être une anticipation, puisque l'Union européenne n'est pas un État. Et pourtant, le Saint-Siège est représenté par une nonciature à part entière auprès des institutions européennes. Parallèlement, les conférences épiscopales d'Europe se sont organisées, je l'ai rappelé au début, à l'échelle du Conseil de l'Europe de Strasbourg, en créant en 1970 le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, le CCEE, dont le siège est encore aujourd'hui à Saint-Gall, en Suisse. Et le siège était en Belgique, parce qu'à l'époque, on regroupait des conférences épiscopales qui étaient derrière le rideau de fer, et elles n'auraient pas pu travailler avec un bureau situé ailleurs que dans un État neutre. L'héritage est encore là, puisque le siège de ce bureau est à Saint-Gall, et le président du CCE est actuellement un Suisse, Monseigneur Amédée Grabin. Ce conseil, je le rappelle, se réunit deux fois par an. C'est une assemblée générale des présidents des conférences épiscopales, mais qui a plutôt une orientation de réflexion pastorale sur les questions qui se posent aux églises catholiques en Europe. À la faveur du concile, des contacts ont été pris entre différents évêques de la communauté européenne de l'époque. Ces contacts ont abouti en 1976 à la création d'un service d'information pastorale européen catholique, le CIPK, qui était basé à Strasbourg et dont un des grands acteurs a été Mgr Paul Huot-Pleroux, donc un prêtre de Besançon, qui a beaucoup travaillé à l'intérieur de cette instance. Et c'est cette instance, le CIPK, qui s'est transformée en 1980 en COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, dont le bureau est à Bruxelles et dont le président est actuellement un Allemand, Mgr Joseph Hohmeier, évêque émérite de Hildesheim. Ce bureau comprend une dizaine de personnes et la COMECE est composée d'un délégué de chacune des conférences épiscopales correspondantes au territoire de l'Union européenne. Alors, il y a une petite particularité, c'est que la géographie de l'Église ne correspond pas exactement à la géographie des États. Alors, je donne... Ce n'est pas fondamental, mais c'est intéressant à souligner. Par exemple, il n'y a qu'une seule conférence épiscopale catholique en Irlande. Donc, l'évêque d'Irlande du Nord participe aux travaux de la conférence épiscopale de l'Irlande. Dans le Royaume-Uni, il y a deux conférences épiscopales, une pour l'Écosse et une pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Donc, ça fait un délégué de plus que les États membres de l'Union. Mais en Scandinavie, pour la Suède, le Danemark et la Finlande, il n'y a qu'une seule conférence épiscopale, étant entendu qu'il y a relativement peu de catholiques dans ces trois pays. Donc là, nous avons deux délégués de moins. Si bien que nous étions 14 à l'époque des 15, et maintenant nous sommes 22 à l'époque des 25, parce qu'en Estonie, pour l'instant, mais un évêque vient d'être ordonné pour l'Estonie, il n'y a pas de conférence épiscopale en Estonie et il n'y a pas de conférence épiscopale à Chypre. Donc nous sommes 22 pour les 25. Les buts, je ne vais pas développer, c'est d'abord d'essayer de comprendre ce qui se fait dans les institutions européennes, ce qui est déjà un vaste programme. Essayer de suivre ces questions, essayer en retour de l'expliquer aux épiscopats nationaux. Donc mon rôle, moi, c'est d'essayer d'expliquer à la conférence épiscopale française les enjeux de ce qui se passe dans les institutions européennes. Et puis, en retour, faire remonter les orientations ou les souhaits des églises vers les institutions européennes. Participer à la réflexion par des colloques, universités d'été, par des rencontres avec le bureau Église et Société de la CEC, et participer ensemble, chaque fois que c'est possible, au débat. Alors, je rappelle simplement, et avant de conclure, peut-être la contribution la plus notable, la plus visible en tout cas, c'est la proposition qui avait été faite en 1997 d'une annexe au traité d'Amsterdam concernant la situation des religions dans l'Union européenne, avec donc cette annexe qui est devenue l'article 52 du projet de traité constitutionnel. Et nous avons participé au débat en 2002-2003 autour de ce projet en essayant de ne pas simplement défendre les aspects bilatéraux, c'est-à-dire la place des églises ou la législation concernant les églises dans l'Union européenne, mais aussi de défendre une conception de la liberté religieuse et du bien commun. Je me permets de signaler une initiative que nous avons prise en avril 2004 d'effectuer un petit pèlerinage avec une délégation d'une trentaine de personnes de chacune des églises des États membres de l'Union européenne, avec une invitation, une participation œcuménique à ce pèlerinage en avril 2004. Et le but de cette démarche, à la veille de l'élargissement, c'était de rappeler à l'Europe, à l'Union européenne, à la fois ses racines, puisque les chemins de Saint-Jacques ont été fédérateurs dans l'Union européenne, mais aussi, en allant à un Finistère, de rappeler que l'Europe ne doit pas se constituer comme une forteresse de pays riches, mais qu'elle doit rester ouverte au reste du monde et ouverte à la transcendance. Et puis, ouverte surtout aux générations qui viennent, pour que nous puissions léguer une terre habitable à ceux qui viendront après nous. Voilà notre contribution très modeste, en essayant de promouvoir par les débats, par les rencontres, par les participations diverses, notre conception de la liberté, de la démocratie et de la recherche de la paix à l'intérieur de l'Europe pour le bien commun de l'humanité. Merci.
C'était Mgr Hippolyte Simon, évêque de Clermont et vice-président de la commission des épiscopats de la Communauté européenne qui représente donc l'Église catholique à Bruxelles. Nous avons choisi de vous faire écouter aujourd'hui tout ce qui concerne la laïcité telle qu'elle est conçue et vécue à Bruxelles. D'abord, vous avez pu entendre Maître Alain Garey sur le concept de laïcité dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, l'allocution du professeur de droit David Capitan sur les interactions entre la laïcité à la française et la liberté religieuse telle qu'elle est défendue au niveau européen. Et enfin, nous venons d'entendre Mgr Simon, vice-président de la COMES. Ces trois allocutions ont été prononcées lors du colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques à l'occasion du centenaire de la loi 1905. Ce colloque a eu lieu du 19 au 21 septembre 2005 à l'Institut de France. La semaine prochaine, vous pourrez entendre de nouveaux extraits de ce colloque. Nous choisirons le thème, cette fois-ci, du Vatican face à la laïcité. Bonne écoute de nos émissions sur Canal Académie.